9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. Depuis début mars, le Covid-19 a tué plus de 8000 personnes dans les EHPAD. Épidémie dévastatrice pour le grand âge. Et l'hécatombe se poursuit chaque jour. Des dizaines de familles qui disent avoir été tenues dans l'ignorance sur l'état de leurs proches ont saisi la justice. La situation aujourd'hui, la nécessité d'un plan d'urgence et les leçons de cette crise pour la prise en charge des plus âgés. On en parle avec l'un des meilleurs spécialistes du vieillissement, Luc Broussy. Catastrophe sanitaire, économique, mais aussi désormais alimentaire. L'ONU parle d'une pandémie de la faim, des dizaines de millions de personnes privées de nourriture et menacées de famine à cause des pertes de revenus et de la mise au ralenti du commerce mondial. La faim plus meurtrière que le coronavirus. L'ingénieur et économiste Bruno Parmentier sera avec nous. Dans les pays les plus riches, l'obésité est un facteur de risque majeur pour le Covid, bien plus encore que ce qu'on pensait. Dernières études et tentatives d'explication avec le chercheur de l'INSERM, Laurent Lagros. Enfin, la lumière qui reste éteinte dans les salles de cinéma, tournage et production à l'arrêt, festival annulé pendant que Netflix et tous les sites de vidéo à la demande font exploser leurs audiences, le monde du cinéma dans le désarroi et l'angoisse du redémarrage. Quand et dans quelles conditions? Le président de la Société des auteurs, Pascal Rogard, sera en ligne avec nous. Voilà le programme.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
Bonjour Luc Broussy.
Bonjour Patrick Cohen.
Éditeur du mensuel des maisons de retraite, vous avez créé le centre de réflexion Matière Grise. Voilà des années que vous travaillez sur ces sujets. Vous avez connu la catastrophe de 2003, cette canicule qui avait fait 19 000 morts. On avait dit plus jamais, vous vous souvenez?
Et je me souviens très bien effectivement d'une crise qui avait effectivement fait de plus de 19 000 morts, mais dans une période beaucoup plus concentrée, puisque c'est à l'espace quasiment de 15 jours. Que le drame s'était noué.
Quelle est la situation aujourd'hui dans les EHPAD? Est-ce que les personnels ont maintenant les moyens de trouver un bon équilibre entre l'isolement sanitaire et les contacts avec les familles?
Écoutez, d'abord, moi je veux dire, on y reviendra, mais à quel point les EHPAD, d'abord, ont bien réagi face à ce drame. On oublie toujours que ce sont souvent les directeurs, les directrices d'établissement qui eux-mêmes ont décidé, bien avant que ce soit le cas pour l'ensemble des Français, le confinement. C'était une mesure difficile à prendre, mais en même temps, on le voit bien aujourd'hui, une mesure indispensable et courageuse. On a vu aussi ces exemples de personnel qui avaient décidé de se confiner eux-mêmes dans les établissements pour limiter le risque de propagation du virus. Donc, de dire d'abord à quel point, parmi les personnels que l'on applaudit à 20h, il y a aussi les personnels des EHPAD qui parfois sont moins considérés que les blouses blanches des hôpitaux. Mais ça a été difficile. Ça a été difficile pourquoi? Parce que les EHPAD ont dû gérer toute cette crise avec à chaque fois un décalage dans les équipements. On a longtemps attendu des masques. Effectivement, je le confirme, aujourd'hui la situation de ce point de vue-là est beaucoup moins tendue qu'il y a un mois et demi. Il a fallu ensuite, et c'est le cas aujourd'hui, attendre les tests. On explique qu'il faut tester tout le monde, sauf que les EHPAD n'ont pas encore les tests. Donc, ils n'ont cessé de courir finalement derrière un rythme dont ils n'étaient pas eux-mêmes le maître. Quant au déconfinement progressif qui a eu lieu cette semaine, je crois que d'abord les établissements le souhaitaient, et c'était les premiers à voir la souffrance d'un certain nombre de résidents, de ceux qui ont des familles, comme je le rappelle quand même, de ceux qui n'ont pas de famille. Et ce déconfinement, par contre, a été peut-être annoncé de manière un peu précipitée par le ministre, puisqu'il a fallu quand même tout au long de la semaine, progressivement, mettre en place les mesures sanitaires, les mesures de prévention, qui permettent, une fois de plus, aux directeurs d'établissement de pouvoir recevoir les familles en toute sécurité.
Des familles qui, parfois, ont saisi la justice, qui disent avoir été tenus dans l'ignorance de la santé de leurs proches décédés. Des dizaines de plaintes ont été déposées. Vous les comprenez, Luc Broussy?
Non, pas du tout. Enfin, Nietzsche disait je souffre, donc quelqu'un doit être responsable. Et donc, comment en vouloir à des familles qui souffrent doublement d'ailleurs, parce que elles souffrent de le décès d'un parent Et puis elle souffre d'avoir été séparée de lui pendant plusieurs semaines. Vous connaissez, enfin, je m'excuse d'être dans le détail un peu macabre, mais il faut que tout le monde le comprenne bien. Quand une personne en EHPAD décède du Covid, l'aspect sanitaire nécessite, commande que la personne soit immédiatement mise dans une housse et immédiatement dans un cercueil. Alors, moi, je comprends. La famille qui, pendant 4-5 semaines, a été séparée de son parent et qui ne peut plus le voir, qui ne le verra jamais une dernière fois. Oui, c'est arrivé. C'est arrivé quand il y a eu parfois de très nombreux morts dans certains établissements et quand, par ailleurs, on a dû respecter les consignes que je viens de rappeler. Mais, comment dire, être dans une situation où les EHPAD ont finalement été responsables pour tout le monde, parce qu'il faut quand même rappeler une évidence que parfois on oublie. Les EHPAD, aujourd'hui, ce n'est pas la maison de retraite où on joue tranquillement au bridge en attendant le thé à 5 heures. Aujourd'hui, les EHPAD sont des lieux qui accueillent les personnes en fin de vie, des personnes qui ne peuvent plus rester chez elles. Donc l'EHPAD d'aujourd'hui, c'est des lieux où effectivement nous avions, nous le savions, une concentration de personnes qui étaient particulièrement sensibles au Covid. C'est le virus qui en veut aux personnes âgées. C'est pas les EHPAD ni la France.
Qu'est-ce que cette crise vous a appris sur nos rapports avec les plus vieux, sur le regard des Français, leur attachement ou leur désintérêt à l'égard des plus âgés?
Mais vous faisiez tout à l'heure souligner que j'avais déjà, dans les mêmes à peu près responsabilités, vécu la canicule de 2003. On s'était rendu compte au moment de 2003 qu'à la fois on ne pensait pas suffisamment aux personnes âgées en temps normal, mais que lors de la crise, il y avait eu une formidable élan de solidarité, notamment à l'intérieur des familles. Moi, je crois que, là encore, la crise révèle que la France aime ses vieux. On a entendu parler pendant cette crise, matin, midi et soir, de la situation des EHPAD. En bien, en mal, peu importe, on en a parlé. On peut pas dire qu'il y a eu une chape de plomb. Moi, quand je vois des titres de journaux, « Tragédie à huis clos »,« L'Omerta », mais enfin, on en a parlé tout le temps. On a vu des jeunes se mobiliser dans le cadre des différents dispositifs pour aller soutenir des personnes âgées. Mon ami Jérôme Gadge a été nommé par le ministre sur une mission ponctuelle pour lutter contre l'isolement des personnes âgées, notamment à domicile, et afin de mobiliser l'ensemble des élus locaux autour de cet objectif. Donc on peut tout dire de cette crise, mais certainement pas que nous avons oublié les personnes âgées. Et je pense qu'au contraire, ça a révélé quelque chose de la société française. C'est que elle a une forme d'empathie qui s'est montrée, je crois, assez évidente pendant cette crise envers les seniors.
Oui, mais avec une concentration particulière qui est même spécifique à notre pays. En France, c'est environ 20% des plus de 85 ans qui résident en EHPAD. C'est l'un des taux les plus élevés d'Europe, Luc Broussy. Et la question se pose régulièrement s'il n'y a pas moyen de faire autrement que de concentrer les plus âgés et les plus fragiles dans ces établissements.
Mais vous savez, cette réflexion-là, les EHPAD l'ont eux-mêmes. On nous promet depuis maintenant environ 2 ans une loi grand âge, et on a préféré d'ailleurs, de manière étonnante, sortir une loi sur les retraites que personne ne voulait, qui a été privilégiée à une loi sur le grand âge que tout le monde voulait. Bon, j'espère que celle-ci, en tout cas, sera la priorité des priorités au sortir de cette crise. Mais je vous livre un petit souvenir. Il y a 6 mois, je déjeunais avec la ministre danoise des personnes âgées. Ils ont pris, il y a maintenant une quinzaine d'années, une loi stoppant la construction de maisons de retraite. Elle était la première à me dire que 10 ans après, elle en subissait aussi une partie des conséquences. Parce que quand une société n'a pas les moyens de prendre en charge à domicile l'ensemble des personnes, quelle que soit leur fragilité, eh bien à un moment donné, oui, l'EHPAD, qui est critiqué aujourd'hui parce que il concentre un nombre de décès dû à la population qui l'héberge, eh bien l'EHPAD a une utilité sociale. Qu'il fasse, qu'il évolue, c'est une nécessité. On va arriver à partir de 2030 à une génération qui est la génération des baby-boomers, hein, la génération qui est née après la Seconde Guerre mondiale, qui aura l'âge de 85 ans. Eh bien, cette génération Club Med, cette génération mai 68, elle aura évidemment envie d'un autre modèle. Eh bien, on va le faire évoluer. Mais c'est pas le moment aujourd'hui de faire le procès de ceux qui ont pour métier, par délégation de la société en général et des familles en particulier, de prendre en charge les plus fragiles.
Le procès, non, mais une loi de programmation, oui. En tout cas, vous, on a bien compris que vous l'espérez, que ce plan vieillissement qui était en discussion il y a un an et puis qui devait aboutir cet hiver, ce sera encore pour plus tard. C'est ça, Luc Brossy. Hein.
Ah, j'espère que c'est pas pour plus tard, justement. Je pense qu'il faut d'abord dès le mois de juin-juillet un plan d'urgence, parce que il faut bien comprendre que la crise va durer dans les EHPAD. Le 11 mai, les EHPAD, la situation ne change pas. Donc pendant plusieurs semaines, voire pendant plusieurs mois, on sera dans une situation de toute façon tendue. Et donc on va pas attendre la Saint-Glinglin pour améliorer les moyens, pour mieux rémunérer les personnels qu'on applaudit à 20h, mais qui demanderont dans les prochains mois quand même à être valorisés. Et puis, il faudra, au-delà de ce plan d'urgence, oui, repenser la place du vieillissement dans notre société. Imaginez les conséquences de cette révolution démographique qui fait que, à partir de 2030, il y aura une explosion du nombre de plus de 85 ans dans notre pays. Soit on décide que ce sera une catastrophe, soit on décide que c'est une opportunité. Si on veut que ce soit une opportunité, il faut la préparer dès maintenant.
Merci Luc Brossy, vous éditez, je le rappelle, le mensuel des maisons de retraite et dirigez le cercle de réflexion Matière Grise. Merci à vous.
Merci.
Europe 1.
Dans un instant, autre effet de la pandémie, la menace d'une terrible crise alimentaire mondiale. L'ingénieur et économiste Bruno Parmentier sera avec nous.
Europe 1, c'est en direct de chez vous qu'on vous retrouve, Patrick Cohen, pour cette arrivée cette semaine.
C'est la faim qui va nous tuer, pas le coronavirus. Cri de détresse entendu cette semaine à plusieurs coins de la planète lors de manifestations, émeutes ou pillages de populations en manque de nourriture en Inde, en Afrique, en Amérique latine. L'alerte a aussi été lancée par le directeur du PAM, le Programme alimentaire mondial qui dépend des Nations Unies. Deux fois plus de personnes risquent de mourir de famine. Cette année, 265 millions d'individus menacés. Bonjour Bruno Parmentier.
Bonjour.
D'abord, un rappel toujours utile. La famine dans le monde, c'est une réalité, indépendamment de la crise actuelle. Elle n'a pas été éradiquée. Hein.
Oui, il faut se rendre compte que des gens qui ont faim, leur nombre est stable depuis plus d'un siècle. Il y a toujours à peu près 800 millions de gens qui ont faim, quel que soit le nombre d'habitants. Alors ça, c'est des gens qui sont mal nourris, pas assez. À l'intérieur de ces 800 millions, il y a des gens qui sont vraiment menacés de mort. Il faut se rendre compte que la faim tue beaucoup plus que la guerre en ce moment sur Terre. Hein. La faim tue à peu près 21 000 personnes par jour. La faim tue un enfant de moins de 5 ans toutes les 10 secondes. Donc ce nombre de gens qui sont vraiment en état de faim critique, dans les deux dernières années, il a augmenté. Il est passé de 110 millions à 135. Et là, maintenant, les Nations Unies nous disent, avec le Covid, il peut doubler. Ça peut être 250 millions. On a vu, par exemple, des choses similaires en 2007. Lorsqu'on a manqué vraiment de céréales sur Terre, le prix des céréales a triplé. Les pays exportateurs ont commencé à faire un embargo sur les exportations. Il y a eu des émeutes de la faim dans 36 pays et le nombre de gens qui ont eu faim a augmenté de 80 millions. Donc c'est possible.
Qu'est-ce qui aggrave la situation aujourd'hui? Qu'est-ce qui permet au directeur du PAM d'alerter sur une pandémie de la faim?
Alors d'abord, il y a quand même une bonne nouvelle. La situation de stock de céréales est plutôt bonne. Les quatre dernières années, on a fait de bonnes récoltes de céréales sur Terre. On a récolté plus que ce qu'on a consommé. Donc la situation est nettement meilleure que celle qu'on avait en 2007 ou bien en 2010, quand les mêmes problèmes ont provoqué les révolutions arabes, parce que le prix du blé avait doublé. Et Moubarak a sauté, voilà. Et les autres. Et Ben Ali. Et donc là, les stocks sont plutôt bons et les prévisions de récolte 2020 sont plutôt bonnes. Donc normalement, si personne ne perd son sang-froid, il y a de quoi nourrir l'humanité. Je vous parle d'abord des céréales parce que c'est quand même l'essentiel de la nourriture. Bien et sûr. En particulier l'essentiel de la nourriture pour les gens pauvres. Les gens vraiment pauvres, ils ne mangent qu'une seule chose. Tous les jours la même chose, ils ne mangent que du riz ou que du manioc ou que du pain. Et donc, le cours d'autres matières premières les importe beaucoup moins. Or, les pays qui sont capables de produire plus de céréales qu'ils n'en mangent sont très peu nombreux sur Terre. Il y en a à peine une vingtaine. La grande majorité des pays du monde produit moins que ce qu'ils mangent. Alors ça commence par exemple par les pays qui n'ont pas assez de terre et trop de population. Bon, le Bangladesh, 1221 habitants au mètre carré. En France, il y en a 119. On imagine que c'est beaucoup plus difficile de nourrir les Bengalis. Ben, ils importent beaucoup de riz. Bon, l'Égypte. L'Égypte, apparemment, c'est un grand pays, mais c'est un désert, point final. C'est un désert traversé par une rivière. Il y a 100 millions d'habitants en Égypte. On ne peut pas nourrir 100 millions d'habitants alors qu'il n'y a que 4% des terres cultivables. L'Égypte, chaque année, c'est le premier ou le deuxième importateur mondial de blé. Si nous bloquons notre blé, nous qui pouvons en produire plus, ben, les Égyptiens auront faim. Mais alors, justement, plus près de chez nous, allez, l'Algérie.
Justement, Bruno, avant de voir l'Algérie, parce que c'est intéressant, mais qu'est-ce qui pousse justement les pays exportateurs à restreindre leur commerce? Qu'est-ce qui pousse, on a vu que la Russie avait décidé de plutôt garder son blé, c'est la peur de manquer?
Alors, soit ils perdent leur sang-froid, soit ils ont envie de spéculer. Ne négligeons pas ça non plus. Parce qu'effectivement, si le commerce se bloque, les prix vont monter. Donc ça intéresse les gens qui... Mais pour le moment, j'ai l'impression que c'est plutôt le sang-froid. Et ouais. Donc, c'est pour ça qu'il y a une déclaration solennelle, mais c'est très rare de voir ça, commune, de toutes les organisations des Nations Unies, l'OMS, la FAO pour l'agriculture, l'OMC pour le commerce, le PAM... le programme alimentaire mondial, qui disent surtout, surtout, continuer à exporter. En fait, la nourriture d'une bonne partie de l'humanité pauvre dépend du sang-froid et de la volonté de vendre d'une vingtaine de pays. À peine une vingtaine, hein. Pour le blé, bah, c'est évidemment l'Union européenne, à commencer par la France, c'est la Russie, l'Ukraine, le Kazakhstan, et puis c'est les États-Unis et le Canada. Pour le maïs, bah, c'est les États-Unis, le Brésil et l'Argentine. Pour le riz, bah, c'est le Pakistan, le Vietnam, la Thaïlande. Donc, en fait, il faut absolument que ces pays continuent à exporter. Maintenant, ça ne suffit pas.
Oui.
On peut amener du riz ou du blé dans les ports. Mais une fois que c'est déchargé à Dakar, ça n'est pas encore dans le dernier petit village. Parce qu'il faut se rendre compte que la faim, on a l'impression que c'est un phénomène urbain, parce que quand on voit des émeutes de la faim, c'est dans les capitales. Mais la faim, c'est d'abord un phénomène silencieux des petits villages isolés du tiers-monde. Et donc, il peut se passer énormément de choses entre le bateau qui arrive. Alors déjà, il faut qu'il arrive. Mais ensuite, ben, il faut qu'il soit déchargé. Il faut des camions. Et puis, ben, chaque fois, il y a des gens qui essayent de spéculer. Donc, au dernier village du Burkina Faso, c'est très compliqué d'approvisionner. Et d'autant plus que, là, il y a cette nouveauté absolue, on confine. Alors, vous imaginez bien que dans les grands bidonvilles des grandes villes du monde, quand on est confiné avec des gens qui n'ont aucune réserve de nourriture et aucune réserve d'argent, qui doivent sortir jour après jour pour travailler dans du travail informel, pour gagner quelques pesos, quelques dollars, quelques francs en CFA, ben, ils n'y arriveront plus. Et donc là, ça va aller très très vite, parce que contrairement aux Français, il n'y a pas de réserve dans leur petite maison. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai risque qu'il y ait plus de gens qui meurent de faim sur Terre que de gens qui meurent du coronavirus.
Bruno Parmentier, vous restez avec nous, on va prolonger sur la situation mondiale dans un instant, et puis je voudrais qu'on parle de la France, pas de pénurie alimentaire, mais des récoltes menacées, on en parle tout de suite.
Europe 1, jusqu'à 10h, vous écoutez C'est arrivé cette semaine avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Avec l'ingénieur et économiste Bruno Parmentier, spécialiste de l'alimentation. Bruno Parmentier, est-ce que vous nous disiez, le tableau que vous nous dressiez il y a un instant est clair d'un autre jour. Les grands débats en cours sur la mondialisation et ses méfaits. Sans le commerce agricole mondial, des centaines de millions de gens ne pourraient pas se nourrir.
Absolument. Mais déjà, en Europe, Je veux dire, il faut se rendre compte que, du point de vue de l'alimentation, notre pays, c'est pas la France, notre pays, c'est l'Europe. Nous sommes 28 pays qui avons fait une organisation pour pouvoir se nourrir. Mais dans ces 28 pays, il y a des pays qui produisent plus que ce qu'ils mangent, mais il y a beaucoup de pays qui produisent moins que ce qu'ils mangent. Je ne sais pas si tous les Anglais brexiteurs ont bien compris que les pays anglais sont absolument incapables de nourrir complètement les Anglais. Donc nous, on a une organisation qui fait que ça marche. Il y a des pays qui produisent plus et qui nourrissent les autres. Et tout ça, ça fonctionne parce que les camions continuent à circuler. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des petits problèmes. Alors, il y en a, évidemment, des petits problèmes. Alors, d'abord, en France, on sera parmi les moins menacés, parce qu'on est des grands producteurs. On est surtout des grands producteurs de la nourriture essentielle. C'est-à-dire, on produit deux fois plus de blé que ce qu'on mange, on produit plus de pommes de terre que ce qu'on mange, on produit plus d'œufs que ce qu'on mange, etc. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Donc, on a eu une impression qui manquait des paquets de farine dans les supermarchés parce que tous les gens sont précipités. Mais attendez, on manque absolument pas de farine en France. On manque de paquets de farine de 1 kilo. C'était un problème d'emballage. Parce que vous imaginez bien que les industriels et les boulangers, ils achètent pas la farine par paquet de 1 kilo. Donc il a fallu emballer un peu plus de farine par paquet de 1 kilo. C'est pareil pour les œufs. On a cru qu'il manquait d'œufs, mais pas du tout. Pas du tout. On produit et on mange plus de 40 millions d'œufs par jour dans ce pays. On manquait de boîtes d'œufs de 6. Parce qu'évidemment, les restaurants qui ont fermé, ils n'achetaient pas les œufs par boîte de 6. Donc ça, c'est très ponctuel. Alors, ce qui va manquer, c'est les fruits et légumes.
Alors enfin, oui, surtout les fruits. C'est ça. Parce que, oui, pas de rupture d'approvisionnement, mais rupture de main d'œuvre, c'est ça. Tout ce qui pousse risque de ne pas être cueilli.
Les fruits, contrairement aux légumes et surtout contrairement aux céréales, ils se récoltent à la main, parce qu'il faut regarder un par un si le fruit est mûr. Or, ceux qui ont des jardins potagers se rendent pas compte, parce que ils font tout. Ils font la salade, et puis ils font la cerise, et puis ils font la pomme de terre. Mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la réalité. Quand je fais du melon, j'ai 200 hectares de melon. Quand je fais de la fraise, j'ai 20 hectares de fraises. Donc il faut des centaines de personnes sur chaque exploitation, dans une période très courte, pour pouvoir récolter. En fait, nous employons 280 000 personnes pour récolter nos fruits. Nos fruits et quelques légumes comme les asperges. Bon, c'est un travail mal payé et c'est un travail très pénible. Moyennant quoi, 80% de ces 280 000 salariés agricoles sont des immigrés. Ils viennent du Maroc, ils viennent du Sénégal, ils viennent de Roumanie, ils viennent de Pologne, etc. Ben, ça, pour le coup, les frontières sont fermées, ils sont plus là. Donc, on a du mal à récolter nos asperges et nos fraises, mais ce sera pareil pour les pêches, pour les abricots, ce sera pareil pour les cerises. Donc, si je prends une comparaison un peu hasardeuse, on pourra toujours faire des gâteaux, puisqu'on aura toujours de la farine, on aura toujours du lait, on aura toujours des œufs, il manquera la cerise sur le gâteau. Mais effectivement, pour les producteurs de cerises, c'est absolument dramatique. Oui. Parce que les cerises vont pourrir. Et puis, il y a un autre problème qui est les marges. Il y a déjà à peu près 5 millions de personnes en année normale qui fréquentent les systèmes d'aide alimentaire. Les restaurants du cœur, les banques alimentaires, etc. Bon, ce nombre est en train de doubler. Or, l'approvisionnement de ces banques alimentaires est remise en question. Parce que pour une bonne part, cet approvisionnement, on va dire de la charité alimentaire, ça vient du recyclage de notre gâchis. On gâche énormément. Hein, on gâche à peu près 200 kilos par personne et par an. Et donc, ben, on va chercher à la sortie des supermarchés, à la sortie des restaurants, à la sortie des grossistes, etc., ce qui n'a pas été vendu, et c'est ça qu'on recycle. Or, comme tous les restaurants sont fermés, il n'y a plus d'invendu dans les restaurants. Donc, on est devant un problème qu'il y a de plus en plus de gens qui ont besoin d'aide alimentaire parce que, ben, par exemple, leurs enfants ne mangent plus à la cantine où ils mangeaient quasiment gratis. Ben, et dans le même temps, eh ben, ils sont passés en chômage technique, on leur a baissé de 14% ou de 15% leurs revenus. Ou bien ils avaient des revenus informels, comme on dit. Donc, il y a de plus en plus de gens qui ont besoin d'aide alimentaire et les circuits traditionnels d'aide alimentaire n'arrivent pas à fournir. Et donc, bah, du coup, il faut faire autrement. Il faut aller chercher directement les produits à la campagne. à condition qu'ils puissent être récoltés. Donc, vous voyez, il commence à y avoir une organisation, déjà aux États-Unis, mais ça y est, en France, ça commence. On commence à donner quelques millions aux associations d'aide alimentaire pour qu'ils puissent aller acheter directement chez le producteur les produits qu'ils vont donner.
Et donc, c'est les restaurants toujours fermés, justement, qu'est-ce que ça change dans la filière alimentaire? Ça change beaucoup de choses, beaucoup.
Beaucoup
de gens qui déjeunent dans les restaurants à midi.
Il y a à peu près 20 millions de Français qui déjeunent au restaurant ou à la cantine, plus 10 millions de soirs. Ça fait 30 millions de repas par jour. Pour ces 30 millions de repas, il y avait quoi? 10 000 acheteurs qui chacun achetait pour 2, 3, 5 000 personnes. Alors, on mange pareil, si j'ose dire. Enfin, pas forcément pareil pour les gens qui ont du mal à boucler les fins de mois. Mais les acheteurs achètent pour 2, 3 ou 5 personnes, alors qu'avant, ils achetaient pour 10 000 personnes. Donc, c'est des circuits commerciaux qui ont plus rien à voir et qui ont beaucoup de mal à se réorganiser. Donc, sur un fond global, qu'on ne risque pas de manquer de pain et de manquer de pommes de terre, la nourriture essentielle, il y a effectivement le diable est dans les détails. Comment arriver à réorganiser provisoirement des énormes circuits de distribution? Et quand je dis énorme, c'est énorme. Parce que tout le monde dit, il n'y a qu'à aller faire des circuits courts. Je crois que beaucoup de Français n'ont pas compris la masse que ça représente. On mange à peu près un peu plus d'un kilo par jour. On introduit à peu près une tonne par an dans sa bouche. 600 kilos de liquide, 400 kilos de solide. Un peu plus d'un kilo par jour. Avec le gâchis, c'est un kilo et demi. Il y a 12 millions de Parisiens. Ça veut dire qu'il faut amener, tous les jours que Dieu fait, faut amener 15 à 20 000 tonnes de nourriture dans la région parisienne. Ça n'est pas uniquement avec des petits poulaillers, fort sympathiques au demeurant, qu'on arrivera à amener 8 millions d'œufs par jour à Paris. Ça n'est pas avec des AMAP et des jardins potagers près de Paris qu'on va vraiment nourrir les Parisiens. Donc, c'est parfait de revenir vers des circuits plus courts, mais la réalité de la nourriture d'un peuple, et notamment des grandes agglomérations, c'est d'abord une organisation vraiment industrielle.
Et merci.
C'est vrai que si jamais on est obligé de fermer Rungis comme on a fermé le porte-avions Charles de Gaulle ou bien l'aéroport d'Orly, on va être très mal. Donc on a absolument besoin de cette organisation industrielle.
Merci Bruno Parmentier de nous avoir si bien instruit sur les fondamentaux de notre alimentation. Vous avez un site et une chaîne YouTube, Nourrir Manger. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres, le dernier Faim Zéro, En finir avec la faim dans le monde aux éditions La Découverte. Merci à vous.
Europe 1.
Après l'alimentation, l'obésité, facteur majeur de risque pour le Covid-19, on en parle avec le chercheur Laurent Lagro.
Europe 1. Comme chaque samedi, de 9h à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen pour cette arrivée cette semaine.
Bonjour Laurent Lagro.
Bonjour Patrick Cohen.
Directeur de recherche à l'INSERM, spécialiste de l'obésité. On en apprend chaque jour un peu plus sur le profil des malades les plus sévères du Covid-19. Les premières études chinoises ne disaient rien de ce qui apparaît aujourd'hui comme un facteur majeur des cas les plus graves en Europe et aux États-Unis. L'obésité, on sait maintenant que c'est un élément absolument déterminant.
L'obésité est en effet une comorbidité parmi d'autres, oui. Mais tout porte à penser qu'elle est un facteur de risque majeur des formes critiques et mortelles de la Covid-19. Et au passage, le diabète, l'hypertension artérielle ou bien encore le syndrome métabolique viennent ajouter au risque lié à la surcharge pondérale à proprement parler.
Oui. Qu'est-ce qui a été montré précisément récemment, Laurent Lagro?
Bien, nous disposons déjà d'études anciennes, par exemple à l'occasion de la grippe asiatique entre 57 et 60 ou encore la grippe de Hong Kong en 1968. Il avait déjà été rapporté que l'obésité et les maladies métaboliques comme le diabète augmentaient la mortalité, la sévérité et les complications de la maladie virale. Donc ce lien obésité-sévérité est aujourd'hui à considérer tout particulièrement dans le cas de la Covid-19, puisque malheureusement près de la moitié des populations des pays industrialisés est obèse ou en surpoids. Alors nous disposons de données très récentes des équipes des professeurs Patou et Jourdain à Lille qui sont très parlantes. Il y a en effet sept fois plus de formes sévères de la Covid-19 nécessitant une ventilation mécanique chez les sujets obèses par rapport aux sujets minces de même âge et de même sexe. Ouais. Donc face à la Covid-19, les sujets obèses ou en surpoids méritent une attention toute particulière, ce qui d'ailleurs vient d'être récemment confirmé et relayé par le ministère de la Santé.
Oui, ils doivent vraiment être considérés comme des sujets à risque. Du point de vue physiologique, comment est-ce qu'on peut expliquer ce lien entre obésité et forme sévère de la Covid-19 ?
Tout d'abord, permettez-moi de rappeler que l'obésité se caractérise par l'hypertrophie et l'accumulation du tissu adipeux. Bien sûr, la fonction principale de ce tissu, c'est de stocker, gérer des acides gras, dans le but de les déstocker quand le besoin de l'organisme se fait sentir. Le tissu adipeux est donc un véritable réservoir à carburant énergétique, stocké dans de grosses cellules que l'on appelle les adipocytes. Alors le tissu adipeux, et c'est très intéressant, pourrait également constituer un réservoir potentiel à virus SARS-CoV-2, car ce virus SARS-CoV-2 montre une très forte affinité pour une enzyme qui s'appelle l'ACE2, qui tient lieu en fait de récepteur pour permettre au virus de pénétrer à l'intérieur de nos cellules. Et cette affinité pour le SARS-CoV-2 est de l'ordre de 10 à 20 fois supérieure à celle qui avait été précédemment rapportée pour le SARS-CoV, vous vous souvenez, celui de 2002-2003. Oui. Et de plus, nous savons aujourd'hui que cette porte d'entrée ACE2 pour le virus est très exprimée, fortement exprimée dans le tissu adipeux. Enfin, dernier point, c'est très important, le tissu adipeux contient également, en plus des adipocytes et autour des adipocytes, des cellules immunitaires en grand nombre, principalement les macrophages. Alors, ces fameux macrophages sont la source de signaux inflammatoires, d'espèces dites réactives de l'oxygène, les radicaux libres, les ions oxygénés, les peroxydes, qui sont potentiellement délétères. Donc, ainsi, et au-delà de la masse, c'est la composition cellulaire et moléculaire du tissu adipeux, en particulier cette infiltration des cellules immunocompétentes, qui détermine la pathogénicité et le risque lié à l'obésité.
Laurent Lagro, votre équipe INSERM à l'Université de Bourgogne a récemment, c'était l'an dernier, réussi des expériences sur des souris. Vous aviez réussi à allonger la durée de vie de souris obèses en enrichissant leur organisme par des antioxydants. Je résume à grands traits, hein, pardon, mais disons que ça, ce que j'ai compris, c'est que ça contribue à renforcer leur défense immunitaire. Est-ce que ça peut éventuellement servir ou aider des humains à se protéger du Covid-19 ?
Alors, dans les études que vous mentionnez à l'instant, nous avons utilisé effectivement le modèle murin, le modèle de souris, et nous avons expérimentalement évité la colonisation précisément de ce tissu adipeux par les macrophages que j'évoquais à l'instant. Alors, chez les patients obèses et dans le contexte de la Covid-19, la situation est évidemment bien différente puisque nous avons affaire à des macrophages qui sont déjà résidents, déjà présents dans le tissu adipeux des patients. Il serait donc ici assez illusoire de les éliminer, mais l'objectif serait plutôt de les contrôler et de parvenir à éteindre leurs propriétés pro-inflammatoires redoutées. Alors l'astuce, quelle est-elle ? L'astuce pourrait être d'appliquer ce concept de la vaccination et de l'immunité dite entraînée ou éduquée, c'est la « trained immunity ». Comment en fait éduquer les macrophages résidents du tissu adipeux afin de bloquer les conséquences délétères de l'obésité sur la résistance et la survie au SARS-CoV-2 et à la maladie Covid-19. Alors cette éducation de notre système immunitaire pourrait être possible grâce notamment à la vaccination BCG qui est, je le rappelle, composée de bacilles bovins atténués et vivants. Il pourrait ainsi aider à contenir finalement cette réponse inflammatoire exacerbée des macrophages qui résident dans le tissu adipeux. Et on sait, ce sont les études les plus récentes qui l'ont démontré, les capacités d'apprentissage existent effectivement pour ces cellules monocytes et macrophages. Donc pourquoi pas les macrophages du tissu adipeux et pourquoi pas tenter de contrôler cette réponse inflammatoire chez les patients obèses et d'éviter ainsi ce fameux boost inflammatoire tellement redouté.
Vous étiez venu il y a quelques semaines ici même nous parler de la piste du BCG, vaccin contre la tuberculose qui pourrait jouer un rôle protecteur. Des essais sont en cours, on l'avait dit. Vous avez avancé dans vos observations ?
Eh bien, pour l'heure, nous disposons d'arguments dits physiopathologiques, que je viens de les évoquer à l'instant, et nous disposons de données écologiques. Hein, elles montrent assez clairement, pour l'instant, il s'agit de corrélation et d'observation, mais elle montre néanmoins que là où la vaccination BCG est largement et systématiquement pratiquée, il y a visiblement moins de cas et surtout moins de cas sévères de la maladie Covid-19.
Vous l'avez observé dans plusieurs points du monde. Il y a notamment le cas de l'Allemagne. Pensez que ça peut être une explication de la différence entre l'ex-RFA, l'Allemagne de l'Ouest, et l'ex-RDA à l'Est ?
Oui, en effet, l'Allemagne, l'ex-Allemagne de l'Est a vacciné avec le BCG très largement, historiquement, de façon systématique et encore récemment jusqu'à l'aube des années 2000, quand la ex-RFA, elle, a moins vacciné. La vaccination obligatoire s'est arrêtée en 1975. Donc effectivement, quand on compare les Länder ex-RFA et ex-RDA, il y a une différence assez frappante avec beaucoup moins de formes sévères, notamment en ex-Allemagne de l'Est. Mais surtout, aujourd'hui, nous attendons les résultats des essais de vaccination qui sont en cours, je le rappelle, en cours aux Pays-Bas, en Australie, en Allemagne, aux États-Unis et également en France, à l'Institut Pasteur de Lille.
Et vous pensez qu'il faut prendre les devants, faire des précommandes de doses vaccinales en attendant ?
Oui, en effet, et je pense qu'il est de fait possible, et je dirais même nécessaire, d'avancer dès maintenant sur cette voie. Nous pouvons, nous devons prendre l'initiative en lançant sans tarder l'importation, ainsi que la fabrication ou refabrication de doses vaccinales BCG dans notre pays. Aujourd'hui, nous connaissons dans le monde une pénurie des doses vaccinales BCG. Elles sont contingentées. Je rappelle qu'aujourd'hui, ce sont 50 à 100 millions de personnes qui devraient être vaccinées contre la tuberculose chaque année dans le monde et qui ne le sont pas, faute de vaccins en quantité suffisante. Donc, et dans le pire des cas, dirais-je, si même d'aventure le BCG n'était pas la bonne piste contre la Covid-19, les gens qui doivent l'être pourraient ainsi être vaccinés et correctement vaccinés contre la tuberculose, qui est une maladie infectieuse qui reste redoutée.
Et qui fait encore aujourd'hui 1,5 million de morts dans le monde. Merci beaucoup Laurent Lagros, merci d'avoir été en ligne avec nous.
Europe 1.
Le désarroi du monde du cinéma, salle fermée, tournage arrêté, production en péril. Comment imaginer le redémarrage ? Le président de la SACD, la Société des auteurs, Pascal Rogard, sera en ligne avec nous.
Europe 1. Jusqu'à 10h, vous retrouvez Patrick Cohen pour cette arrivée cette semaine sur Europe 1.
Bonjour Pascal Rogard.
Bonjour.
Président de la Société des auteurs, la SACD, acteur important de la création culturelle, du spectacle vivant. Le cinéma complètement à l'arrêt, ce qui n'est jamais arrivé en France, même en temps de guerre, c'est un très mauvais moment à passer ou c'est un secteur en péril ?
C'est un secteur qui va avoir de grandes difficultés, mais dont on espère qu'il va rebondir. Mais il n'y a malheureusement pas que le cinéma qui est concerné, c'est toute la vie culturelle du pays qui est atteinte. Les tournages des fictions audiovisuelles sont aussi arrêtés, et puis le spectacle vivant souffre énormément puisque les salles sont fermées. Alors pour le cinéma, les salles sont fermées, les tournages sont également arrêtés, et les producteurs sont en grande difficulté parce que j'ai cru comprendre que naturellement les risques épidémiques n'étaient pas pris en charge par les assureurs. Et donc la production française, qui sur le plan capitalistique est fragile, est extrêmement menacée. Voilà.
L'État a mis quelques filets de protection. Vous avez vous-même pesé pour la création de plusieurs fonds d'urgence. Ça va être suffisant ?
Oui, l'État a mis en place le principal filet de protection qui pour le moment a été mis en place par l'État. C'est celui qui concerne les salariés, en particulier les intermittents, qui bénéficient de dispositions spéciales pour maintenir leur rémunération d'indemnisation chômage. Nous-mêmes, grâce au soutien du CNC d'un côté et du ministère de la Culture de l'autre, on a mis en place des fonds d'urgence pour aider les auteurs qui sont dans de grandes difficultés. Alors, le ministère de la Culture s'est battu pour que le Fonds national de solidarité soit accessible aux auteurs. Mais malheureusement, certaines des règles de ce fonds qui s'appliquent, qui est plutôt pour les artisans, pour les commerçants, ne fonctionnent pas pour les auteurs. En particulier, on exige toujours un numéro SIRET et la quasi-totalité des auteurs du secteur du cinéma et de l'audiovisuel n'ont pas ce numéro SIRET. Voilà.
Donc tous les auteurs ne sont pas forcément protégés et dans tous les secteurs
Tous les auteurs de notre secteur, sauf maintenant, il y a une petit trou dans la raquette, mais j'espère qu'on va le régler avec le ministère de la Culture, ce sont justement les auteurs de la radio, ceux qui font de la fiction radio, les auteurs du spectacle vivant, les auteurs cinéma audiovisuel, maintenant sont protégés par les dispositions et les fonds qu'on a mis en place. Et puis, il y a aussi quelque chose qui protège les auteurs, c'est que je me suis adressé aux principaux patrons, patronnes de radio, de télévision, et je leur ai demandé de maintenir les écritures, parce que vaut mieux pour un auteur continuer à travailler que de demander de l'aide sociale. Et tout de suite, par exemple, Delphine Ernotte, la PDG de France Télévisions, a accepté de maintenir les écritures ou de reprendre des écritures qui avaient été arrêtées. Donc sur le plan du travail de l'écriture, il est toujours possible pour les auteurs de continuer à créer. Par contre, évidemment, les tournages étant arrêtés, ils ne savent pas quand leurs œuvres pourront être réalisées.
Bien sûr, et puis les musiciens peuvent jouer devant des écrans, mais les acteurs et les cinéastes sont, eux, les seuls créateurs qui réellement empêchaient de créer. Comment imaginez-vous le redémarrage de ce secteur, Pascal Rogard? Parce que même avec toutes les protections sanitaires possibles, est-ce que les Français auront à nouveau envie de se retrouver confinés, pardon, c'est le terme, mais confinés dans une salle de cinéma?
Alors, je crois qu'il y a deux thèses, et malheureusement, personne n'a la réponse, parce que certains disent que, et c'est triste, que l'épidémie va continuer peut-être pour un certain temps. Bon, et que l'objectif est naturellement d'éviter que les hôpitaux soient trop pleins, mais l'épidémie risque d'être toujours là, puisqu'on n'a pour le moment ni traitement réel, ni vaccin. Donc il y a une thèse qui dit que les Français, effectivement, pourraient rechigner à revenir dans les salles de cinéma ou dans les salles de théâtre. Et puis une autre, moi qui suis optimiste, je pense que le public a été confiné, qui n'a pas vu de film, qui n'a pas vu les acteurs en vrai, bah, si les dispositions sanitaires sont suffisamment protectrices, il aura absolument envie un peu de quitter sa télévision et de retourner au grand spectacle. Voilà, moi je suis plutôt optimiste sur le fait que les Français auront envie en particulier de retourner au cinéma, et ça, des sondages pour le moment montrent que ça serait le cas, parce qu'au bout de deux mois et demi de confinement de votre télévision, bah, vous avez un peu envie de sortir. J'espère qu'ils retrouveront aussi la terrasse des cafés, des restaurants, enfin une vie plus normale, même si je crois que le virus sera toujours présent et qu'il faudra naturellement maintenir toutes les mesures de précaution et de protection. Voilà.
J'espère avec vous que cette envie sera là. Et les tournages, est-il vrai, comme je l'ai entendu dire, que certains acteurs craignent de reprendre les tournages avec des scènes de proximité ou d'intimité, comme dans la vie d'avant, Pascal Rogard?
Oui, bien sûr que les acteurs le craignent, parce que s'ils sont atteints par la maladie, c'est une maladie extrêmement grave et extrêmement dangereuse. Mais j'espère que d'ici là, on pourra faire les tests. Si vous avez une scène d'amour entre un acteur et une actrice, on aura testé qu'aucun n'est touché par la maladie et que donc la réunion de ces deux personnes peut se passer sans problème. Voilà, je crois qu'on peut prendre des mesures de précaution, des mesures de sécurité qui rassureront les acteurs, et pas seulement les acteurs et les actrices, mais aussi les réalisateurs et l'ensemble des techniciens qui sont présents sur les tournages, parce que les tournages, c'est quand même une grosse machine, et je sais qu'actuellement, la profession réfléchit à toutes ces mesures de précaution qui devront être prises pour que les tournages continuent et enfin, reprennent normalement. Voilà.
Et pendant ce temps de confinement, Netflix et les autres plateformes créent de nouvelles habitudes pour la consommation de films de très fortes audiences. C'est inquiétant ?
Non, parce que en réalité, il y a un double mouvement. Netflix a considérablement augmenté son nombre d'abonnés dans le monde. Je crois qu'ils ont actuellement 180 millions d'abonnés. Et la télévision classique a retrouvé beaucoup les faveurs du public, et en particulier du public le plus jeune. Dans la télévision classique, traditionnelle, le public jeune avait un peu déserté, et il est revenu. Et en particulier, nous, on a un sujet de satisfaction, c'est France 4. Vous savez que le gouvernement voulait supprimer France 4. Le gouvernement n'avait pas tenu compte d'un fait extrêmement important qui est la fracture numérique. Et là, on s'aperçoit que France 4 est devenue la première école de France parce que malheureusement, il y a beaucoup de jeunes Français qui n'ont pas forcément le haut débit Internet, qui n'ont pas forcément un ordinateur à la maison et qui donc ne peuvent pas suivre les cours par la voie numérique. Donc, et que Netflix, ses tournages sont aussi arrêtés. Donc Netflix aura aussi un problème d'approvisionnement à un moment donné. Mais le fait que le public s'abonne à des plateformes à péage est une bonne chose. Par contre, ce qui va devenir extrêmement important, c'est que le gouvernement reprenne le chemin de la loi audiovisuelle et qu'on puisse, dans des délais extrêmement rapides, transposer la directive européenne qui prévoit une obligation pour les plateformes qui sont localisées à l'étranger comme Netflix. Netflix est localisé en Amsterdam, en Hollande, qui prévoit une obligation de financer la création française. Alors, comme les télévisions traditionnelles commerciales auront perdu des ressources, elles pourront moins financer, il est extrêmement important que les plateformes qui, elles, ont pu se développer pendant cette période de crise puissent accroître leur financement de la création et donc qu'on fasse adopter très rapidement, peut-être même par ordonnance, cette législation qui permettrait un rebond économique de la création cinématographique et audiovisuelle française.
Merci beaucoup Pascal Rogard, président de la SACD, la Vénérable Société des Auteurs. Merci à vous.
Directeur général, monsieur Cohen.
Ah, directeur général, pardon.
Oui, oui, mais c'est pas grave. Bon.
Bonne journée.
Merci.
Europe 1.
Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, dimanche à 9h pour C'est arrivé demain. Après les infos de 10h, vous aurez Mediapolis avec vous. Bonjour Olivier Duhamel.
Bonjour Patrick Cohen. Et à Mediapolis, les voyages ont repris puisque nous allons à Rome, Barcelone, Berlin, Londres, Bruxelles, New York, Stockholm et Paris.
Formidable. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1.